Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Vous avez bien entendu, pas question de parler de littérature, non, ici on laisse plutôt parler la littérature. On va vous lire des livres, tourner des pages, vibrer au rythme des belles formules. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques pages d'Aventure en mer, d'Henri de Montfred. J'aurais pu choisir Les secrets de la mer Rouge, La croisière du haschich ou bien Les serpents de Sher Hussein. Bref, j'aurais pu piocher un roman au hasard dans la bibliographie de cet auteur unique. J'aurais pu tourner n'importe quelle page et commencer la lecture. Car avec Henri de Montfred, on n'est jamais déçu. Je vais tenter de vous présenter brièvement ce géant de l'aventure et de la littérature. Après une première vie ordinaire, Henri embarque pour Djibouti en 1911, à 32 ans. Il quitte le monde occidental pour partir seul, vers des terres et des mers lointaines. Commence alors sa deuxième vie, la véritable, celle où il va déployer tous ses talents. Pendant les 30 années suivantes, sous le surnom d'Abdelhaye, il va sillonner la mer Rouge et toute la corne de l'Afrique. Pour se faire accepter des locaux, il se convertit à l'islam et adopte leur mode de vie. Sur son bateau, le célèbre Altaïr, il va aller en Inde, en Égypte, en Éthiopie ou encore au Kenya pour sa contrebande de haschich, de perles ou bien d'armes à feu. Au cours de ses expéditions, il défie toutes les autorités locales et devient une légende dans la région. C'est une rencontre avec une autre légende, Joseph Kessel, qui le pousse vers l'aventure éditoriale. De cette entreprise va naître une cinquantaine d'ouvrages où il relate ses aventures. Les livres d'Henri de Montfred, ce n'est pas de la littérature, c'est autre chose. C'est tout un monde que l'on touche du doigt, l'Afrique de l'Est, ses légendes, son histoire, ses peuples. Aventure en mer, dont je vais vous lire quelques extraits aujourd'hui, est le deuxième roman autobiographique écrit par Henri de Montfred. Il est sorti en 1932. Dans celui-ci, il raconte comment, alors qu'il travaille pour un marchand de perles, il devient trafiquant d'armes. Pour notre lecture du jour, je débute page 82. Henri et son équipage sont amarrés dans le port d'Odeida, au Yémen. Je proposais alors au gouverneur d'employer mes bateaux à assurer le transport des passagers arabes entre Djibouti et le Yémen et à transporter des denrées dans les deux sens. Il fallait pour cela forcer le blocus anglais, ce fameux blocus protecteur de leur commerce, et cette perspective surtout me plaisait. Grâce au gouverneur Simoni, qui n'aime pas les Anglais, je puis avoir de grandes facilités pour faire des voyages réguliers entre Djibouti et la côte arabe. Je transporte surtout des passagers, du pétrole, du sucre et de la farine. J'ai eu la chance, dès mon second voyage, de réduire au silence Salim Monti en acquérant la preuve de son commerce d'esclaves. J'ai dans la main une arme terrible qui peut l'envoyer au bagne et il sait que j'en ferai usage à la première mésaventure que j'aurai, par sa faute, avec l'intelligence service. Depuis ce moment, toujours payé par cette puissance occulte, il a su lui fournir des renseignements de fantaisie qui ont fait brûler pas mal de Cardiff aux Anglais de Sa Majesté pour me chercher partout où je n'étais pas. Voici l'histoire. C'est au retour d'un de mes voyages où j'ai déposé 30 passagers à Korg Leifa, au sud d'Odeida. La nuit a été calme. J'ai pu dormir dans ma cabine et l'odeur du feu de bois que le mousse allume à l'avant m'annonce l'approche du jour. Une lueur blême entre eux par le rouf ouvert. C'est l'aube. L'homme de bar, chez M, avance la tête sur ce carré de ciel blafard. « Abdelhaye ! » Qu'est-ce qu'il y a ? Et j'émerge sur le pont avec ce regard marginal en trois temps, à la voilure, sur le compas et vers le large dans le vent. « Regarde, me dit chez M, on dirait une pirogue. » À un demi-mille, une chose noire de forme allongée apparaît et disparaît au balancement de houle. C'est une planche, pensais-je tout haut. Peut-être, mais il y a un homme dessus. Le jour est encore trop indécis pour permettre à mes yeux de distinguer. Mettons le cap dessus, nous verrons bien, je crie le commandement. Idor, pars à virer. Les hommes de quart surgissent de leur couverture où ils somnolaient en paquet informe, tandis que tous étarquent l'écoute, nous repartons trimbord armure dans la direction présumée de l'épave. On ne voit plus rien car notre virée lof pour lof nous a éloignés. Tous les yeux scrutent la mer. Aperçu, la chose noire émerge à trois encablures sur le dos d'une lame. C'est bien un homme cramponné à une pièce de bois. Il semble qu'il s'efforce de se soulever pour attirer notre attention. Mais ce n'est pas une planche. C'est un navire chaviré dont seule la quille émerge. Un homme nu s'y tient à plat ventre. C'est un noir, probablement un Somali. Il faut être prudent pour accoster cette lourde épave dont la masse dissimulée sous l'eau est un danger. L'homme a l'air épuisé. Abdi et Salah se jettent à la mer avec un filin. Ils saisissent le naufragé qui semble maintenant évanoui après son effort pour appeler. Et la mare sous les bras. On le hisse à bord, non sans peine, car c'est un grand gaillard très lourd. C'est un homme déjà âgé, mais dans toute sa force. Et son type me rappelle aucun de ceux des peuplades de la côte. Après avoir absorbé du kécher très chaud, il revient peu à peu à lui. Ses jambes et diverses parties de son corps portent de blessures récentes. Tandis que je le tamponne avec un peu de teinture d'iode, je remarque que beaucoup sont semblables, on dirait des morsures. Je le questionne, il répond qu'il ne sait pas, qu'il ne se souvient plus. Pourquoi ce bateau est-il chaviré ? Il hésite à répondre et raconte une histoire confuse de voiles masquées par un coup de vent inattendu. Il dit être là depuis 2 jours. Tout cela est étrange. Car depuis 4 jours, le temps est au calme et aux petites brises. Il est évident que cet homme a peur et ne veut pas parler. Il faut le laisser en paix pour qu'il reprenne confiance. Il se jette sur la nourriture comme un homme affamé, puis il s'endort d'un sommeil de plomb. Vers le soir, il s'éveille, il a repris sa vigueur et s'en sent plus à l'aise parmi nous. Après le dîner, nous sommes tous assis sur le gariard arrière, par une de ces nuits où la mer semble dormir. Alors, cet homme parle comme s'il avait besoin d'alléger son cœur de tous les souvenirs qui l'oppressent. Il se dit Abyssin, de race Gala, originaire de ces provinces lointaines qui confinent au pays des Somalis et des Oulahomos. Il se nomme Gabré. Son émouvant récit nous est fait par bribes, sans aucun souci de chronologie. Les choses qui l'ont le plus frappé sont narrées les premières, et dans la nuit chaude de la mer Rouge jusqu'au matin, nous écoutons la triste odyssée d'un enfant, puis d'un homme sur la longue route de l'esclavage.
Come on,
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Vous venez d'écouter Abdoy Timiroy d'Abdi Bobow. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre le voyage, ou plutôt les aventures en mer d'Henri de Montfred. Par la magie de sa parole, je revois tout ce pays des hauts plateaux où j'ai vécu les premières années de ma vie d'Afrique. Je vois apparaître ces grandes plaines ondulées couvertes de champs de doura, si hauts qu'un cavalier y peut passer sans montrer la tête. Les grandes prairies avec les lacs où viennent les troupeaux pendant la saison sèche. Je me rappelle les jeux des petits bergers qui arrêtent des serreaux de lianes en lançant des bâtons en guise de javelot. Chaque matin, les filles descendent les collines où sont perchés les villages dont le chaume des toits coniques laisse filtrer la fumée bleue. Dans l'air frais et calme du matin, on les entend venir entre les euphorbes des chemins creux, chantant et dansant au son de leur houla, vide en guise de tambourin. Toutes nues maintenant, elles se baignent dans l'eau fraîche du lac et s'amusent à effrayer les poules d'eau qui bâtissent des nids d'herbe. Mais les bêtes savent que c'est pour rire, car elles n'ont pas peur de ces gens qui ne les tuent pas. Tout rempli de ces images, j'écoute dans la nuit la parole du conteur poursuivre son récit. Je traduis aussi fidèlement que le permet ma mémoire. Je revois la hutte ronde où ma mère écrase le grain sur la pierre plate. Je vois briller le feu de branches épineuses qui éclairent le ventre des vaches pendant que la boudena se cuit sur le grand plat d'argile. Et puis, c'est la nuit, quand l'air devient froid comme si toute la chaleur de la terre partait dans les étoiles et que les grillons se sont tus. Alors, dans le silence, on entend ruminer les vaches paisibles. Le toit de paille aux lattes enfumées garde sur nous la tiédeur lourde de l'étable. Et une braise luit encore dans les cendres du foyer. Sa faible lueur semble veiller, tandis qu'au dehors se répondent les hurlements des bêtes de nuit. Je me serre contre ma mère et bien vite, je me laisse tomber dans le trou du sommeil pour ne plus avoir peur. Après la saison des pluies, mon père décida de m'amener avec lui à Ankobert, conduire notre âne chargé de 2 gerbas de beurre. C'était le revenu de l'année. Il devait servir à acheter des étoffes de coton pour nous vêtir. Le voyage durera plus d'un mois, mais nous le ferons avec ceux des villages voisins pour être plus nombreux à camper la nuit et à protéger des ânes contre les léopards. Je partis joyeux car je ne savais pas que je ne quitterais le Hafa pour toujours. Nous marchions depuis bien longtemps. Nous avions passé des montagnes et des rivières. Notre âne était déjà blessé sur le dos et mon père portait la moitié de la charge pour le soulager. Nous étions dans le pays de Choa, sur des hauts plateaux où les nuits sont froides. Un matin que nous chauffions au soleil avant de reprendre notre route, une troupe d'esclaves Chankala arriva, chargée de tous les bagages d'un grand chef abyssin. Les esclaves d'un abyssin, et surtout d'un chef, se croient tout permis, et on n'ose pas se plaindre car il en coûterait cher à de pauvres galas asservis. Ils voulurent s'emparer de nos ânes pour porter leur fardeau. C'est hélas l'usage. Tous les peuples soumis par la conquête, comme nous le sommes, sont obligés de faire des corvées si un chef abyssin en a besoin. Cependant, ce chef qui passait n'était pas celui de notre province et légalement ne devait rien nous demander. Mais où est la justice pour les faibles ? Mon père voulut refuser son âne, qui était déjà blessé. Les esclaves tombèrent sur lui. Comme il se défendait bien et tenait les Chankala en respect avec sa djembia, des soldats abyssins accoururent et je le vis rouler à terre, la tête fracassée d'un coup de crosse. Je fus emmené et obligé de conduire notre pauvre âne chargé d'un lourd fardeau. J'aurais pu m'enfuir, Mais où aller dans ce pays inconnu, maintenant que mon père était mort? Et puis, j'espérais qu'arrivé à destination, on me rendrait mon âne. Le second jour, le pauvre animal tombait fourbu. On le laissa au bord de la piste, où cette nuit les hyènes le dévoreront, car c'est ainsi que doivent finir les bêtes qui n'ont plus la force de travailler. Quant à moi, on me fit porter une partie de sa charge et j'eus dû suivre au milieu des autres esclaves. Cependant, je ne fus pas maltraité et comme je mangeais toujours à ma faim, je pris le parti de me résigner à mon sort. Après bien des jours, nous arrivâmes à la demeure de mon nouveau maître. Là, je m'accoutumai à ma nouvelle vie qui me différait pas beaucoup de celle que j'avais vécue dans le pays où j'étais né. Les années passèrent, monotones et paisibles. J'étais devenu un jeune garçon capable de porter une charge de bois. Le maître chez qui le sort m'avait placé était un abyssin déjà vieux et ses jeunes enfants vivaient avec moi comme si j'avais été leur frère. Il y avait 12 esclaves Shankala pour le servir et tous lui étaient dévoués comme des chiens. Les femmes faisaient le tala, l'ingira et filaient le coton. Les hommes portaient les fusils et escortaient le maître quand il allait aux environs prélever la dîme sur les terres où il faisait travailler les galas. Quant à moi, j'étais très bien traité et je me trouvais heureux comme si j'avais été le fils de la maison. Je ne me doutais pas que les bons traitements dont j'étais l'objet n'avaient d'autre but que de faire de moi un bel adolescent. Je dus laisser mon nom musulman et on me nomma Gabré. Cependant, on ne m'obligea pas à abandonner ma religion musulmane, car les abyssins sont tolérants. Un jour, mon maître me fit appeler. Il y avait à côté de lui un homme qui n'était pas du pays. Sa mule attendait à la porte et portait les grands sacs de cuir pendus de chaque côté de la selle, comme il en faut à ceux qui font de longs voyages. Mon maître me parla avec douceur en ces termes. « J'ai vendu un fusil à cet homme qui est mon ami, mais il n'a pas d'argent pour me payer. » Je t'ordonne de le suivre en portant le fusil qu'il m'a acheté. Quand il te remettra les 100 talers, alors tu reviendras. En attendant, sois son serviteur comme s'il était ton maître. Je partis, joyeux de voir des pays nouveaux. Nous faisions des étapes très longues et je devais constamment courir pour suivre la mule qui était sans gare et rapide. Mais toujours mon maître, en passant dans les villages, achetait des boudenas chaudes avec du lait caillé et m'en donnait autant que j'en pouvais manger. Dans ces conditions, on peut courir toute la journée sans avoir le droit de se plaindre. Vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. Vous venez d'écouter la chanteuse djiboutienne Dabo Meirané. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours avec les aventures en mer d'Henri de Montfred. Peu de jours après mon arrivée, à l'heure où tous les hommes étaient partis travailler dans la plaine, on m'amena avec le petit Youssouf, c'était le nom du gamin que nous avions pris une nuit au village à Roussy, dans une maison isolée au milieu d'un quartier en ruine. Dans une pièce très sombre, sans fenêtre, un vieil homme était assis devant un monceau de feuilles de cat qu'il pliait dans un mortier de bois parce qu'il n'avait plus de dents. D'autres hommes étaient assis tout au fond de l'espace d'alcôve où se tenait le vieux, mais on les voyait à peine à cause du peu de jour que laissait passer la porte basse. On nous mit tout nus, Youssouf et moi, et on nous fit approcher du vieux qui nous examina tout en égrenant son chapelet. Il parla en langue agroba avec Cheikh Omar, puis, s'adressant à moi dans la langue de mon pays, il me demanda si j'avais connu les femmes. J'avais à ce moment 12 ou 13 ans et j'étais loin d'être pubère. Mais, en dormant au milieu des esclaves chez mon premier maître abyssin, les femmes Shankala m'avaient appris les jeux qui se font la nuit. Alors, pour me vanter, je répondis « oui » d'un air assuré. Le vieux sorcier, car c'en était un, me palpa où il fallait, comme pour voir si je ne disais pas un mensonge. Puis il dit quelques mots, toujours en argoba, d'un air mécontent, et aussitôt, on me renvoya à la maison. Je rentrai seul et un peu troublé de cet interrogatoire dont je ne comprenais pas le but. Le lendemain, je ne vis pas le petit Youssouf. Et quand je demandais aux femmes ce qu'il était devenu, elles me répondaient qu'il était malade. À partir de cette soirée, je fus traité plus durement et on m'envoya faire le pénible travail des corvées de bois avec d'autres esclaves de toutes les races. Il y en avait 15 ou 20 que je ne connaissais pas, et toujours les hommes armés nous suivaient quand nous allions hors du village. Je compris alors que l'histoire du fusil et des 100 talers n'avait été qu'une ruse pour m'amener au loin. Et je me répétais la phrase ambiguë du vieil abyssin. « Tu reviendras quand il te donnera 100 talers. » Hélas, j'étais bien certain maintenant qu'il ne me les donnerait jamais et ma situation m'a paru bien triste car j'étais devenu un esclave comme tous les Shankala à farce des buts. Mes compagnons m'apprirent que nous partirions bientôt dans un autre pays, très loin, de l'autre côté d'un grand fleuve d'eau salée si large que les oiseaux d'un bord ne peuvent aller nicher sur l'autre. Je commençais à ne plus penser à mon petit camarade Youssouf, car plusieurs lunes avaient passé sans que j'entendisse parler de lui, et personne ne pouvait répondre à mes questions. Un jour, en rentrant de travailler dans les jardins de café du maître, j'eus la surprise de voir Youssouf assis sur une peau de bœuf à la place d'honneur de notre maison. J'eus une grande joie et je fus surpris de voir combien il avait engraissé et combien son teint s'était éclairci. Je lui demandai ce qu'il était devenu pendant ces 3 mois. Il me répondit qu'il avait été malade, mais son air était si gêné que je compris qu'il me cachait quelque chose. À force de le presser de questions, il fondit en larmes et m'avoua qu'on l'avait châtré le lendemain du jour où je l'avais laissé chez le vieux sorcier. Il me montra ce qu'on avait fait de lui. Plus rien. Il était devenu comme une femme, à peine voyait-on une cicatrice rose en forme de demi-lune. Je restais pétrifié et je sentis un frisson en pensant que si j'avais avoué que j'étais puceau, peut-être serais-je comme lui à cette heure. « Tu as eu mal ?» lui demandai-je. « Non, car je ne savais pas ce qu'on m'avait fait. On m'avait d'abord saoulé avec un breuvage amer et la fumée d'une herbe. Quand je me suis réveillé, j'avais mal dans le bas du ventre et aux cuisses comme si l'on m'avait battu. Mais j'avais les mains et les pieds attachés et une femme qui se tenait auprès de moi m'empêchait de lever la tête pour voir l'endroit qui me faisait souffrir. Le vieux arriva et me mit des herbes où j'avais mal. J'avais soif, je criais pour avoir à boire, mais on me donnait rien. Quand j'ai voulu uriner, je ne le pouvais pas et cependant je durais un martyr comme si mon ventre allait éclater. Alors, à force de supplier, la femme qui restait toujours à côté de moi alla chercher le sorcier. C'est à ce moment que je compris ce qu'on m'avait fait. Ils avaient retiré une cheville en bois et j'ai pu aussitôt me soulager. À partir de ce moment, on m'a nourri de miel et de viande crue qu'on me faisait avaler de force quand je n'en prenais pas assez. Pendant un mois, je suis resté les genoux attachés pour m'empêcher d'écarter les jambes. Je ne pouvais uriner qu'une fois par jour à cause de cette cheville en bois enduite de beurre qu'on me laissait toujours en place jusqu'au moment où on me détachait les jambes pour changer les hermes de l'emplâtre. On me remettait chaque fois cette terrible cheville de bois après l'avoir plongée dans le beurre brûlant. C'est cela qui m'a fait le plus souffrir avec la soif terrible des premiers jours. Maintenant, je suis guéri et je ne pense plus à rien. Seulement, j'ai toujours envie de rester couché et à dormir. Je demeurerai muet de stupeur devant cette révélation. Plus tard, j'ai su, hélas, que ces choses se font couramment. Mais l'opération elle-même est un secret jalousement gardé. Personne n'y assiste, pas même le patient, puisqu'on le tient endormi 2 jours avant avec des plantes stupéfiantes parmi lesquelles il y a le Hetzafaris, Datura stramomium. Il faut aussi que le sujet soit impubère et qu'il n'ait jamais excité ses sens par aucun attouchement. Autrement, il mourrait dans les 3 jours. Le père de Youssouf avait vendu son fils en sachant très bien ce qu'on devrait en faire. C'est pour cela qu'il avait touché une grosse somme d'argent. Nous partîmes peu après avec une caravane menée par des Danakis, qui nous conduisirent à travers les plaines herbeuses de Laoucha, des marais de Laoussa, puis dans les montagnes escarpées de Mabla, et enfin nous arrivâmes, exténués de fatigue, à un village en bordure de mer que je voyais pour la première fois. C'était Adjoura. Nous restâmes plusieurs semaines campés dans une oasis de dattiers sous une chaleur torride. Mais on nous prodiguait le lait, la viande et le beurre pour nous faire reprendre des forces. Enfin, une nuit, on nous mena à une petite plage isolée entre 2 falaises où 2 petits bateaux, montés par des Arabes au teint clair, nous attendaient. Après 2 jours de traversée, nous débarquâmes sur la terre arabe qui allait être pour toujours notre nouvelle patrie. Et là, chacun suivit sa destinée avec son nouveau maître. Moi, je fus pris par le nakouda arabe d'un grand sombouk venu de Makalla. Il y avait 50 hommes d'équipage, tous esclaves soudanais, et j'appris avec eux le métier de plongeur et de marin. Est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, les aventures en mer d'Henri de Montfred sont éditées par la maison d'édition Grasset. Merci pour votre attention. L'émission est, comme d'habitude, à réécouter prochainement au podcast sur le site de Canal B. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.